si on demande à n'importe qui ce qu'il a mangé un mardi d'il y a 45 jours, bah, c'est le flou total, on a tout oublié.
Ah, ça c'est sûr. Déjà la semaine dernière, c'est compliqué.
C'est ça. Alors, imaginons devoir se fier à des mémoires vieilles de 45 ans pour écrire l'histoire. À notre ère de l'immédiateté numérique, ça ressemble un peu à un suicide intellectuel, en fait.
Ouais, complètement.
On s'attend à ce que les détails soient estompés, les visages mélangés, et que les faits soient engloutis par une sorte d'amnésie collective.
C'est le biais classique qu'on a aujourd'hui.
Exactement. Pourtant, quand on décortique l'historiographie du monde antique, et plus particulièrement un document majeur comme le livre des Actes des Apôtres rédigé par Luc, bah, cette idée d'un oubli inévitable, elle vole complètement en éclats.
Tout à fait, oui.
Luc a écrit ce texte environ 4 décennies et demie après les faits, donc probablement au début des années 70. Bon, décortiquons tout ça. Un tel décalage temporel condamne-t-il obligatoirement un récit antique à n'être qu'un assemblage de, je sais pas, du mythe brumeux ?
Ce qui est fascinant ici, c'est que cette idée d'une amnésie sur 45 ans est une projection purement moderne. En fait, nous jugeons le passé avec nos cerveaux d'aujourd'hui.
Des cerveaux un peu paresseux, non ?
Bah, des cerveaux habitués à déléguer la rétention d'informations, oui. Mais des exemples très documentés déconstruisent ce préjugé. Prenons le cas d'Anna Gulick.
Anna Gulick.
Oui, c'est une femme décédée à 96 ans, qui a grandi dans une époque où la culture rurale ne dépendait pas de la radio ou de la télévision. Eh bien, elle relatait avec une précision chirurgicale des histoires familiales complexes qui remontaient aux années 1700.
Attends, 1700 ans ? Donc bien avant sa naissance.
Absolument. Les historiens ont recoupé ces récits oraux avec les archives publiques de l'état civil et les détails étaient parfaitement exacts.
C'est fou. Des siècles de transmission orale qui tiennent la route face à des registres administratifs.
Ouais, et le phénomène est encore plus frappant dans les sociétés traditionnelles d'Afrique, juste avant l'arrivée massive des médias modernes.
D'accord, là où l'oralité est reine, quoi.
Exactement. Les recherches en anthropologie historique, notamment celles menées à l'université Paris 7, démontrent que les récits généalogiques et les événements fondateurs y étaient préservés et transmis de génération en génération. Et ça, avec un soin institutionnel.
C'était pas juste le téléphone arabe, en gros.
Non, pas du tout. La mémoire n'était pas laissée au hasard d'une conversation de comptoir, tu vois. C'était une véritable fonction sociale encadrée, vérifiée par toute la communauté.
Si je comprends bien, notre cerveau actuel fonctionne un peu comme un terminal très basique. On a externalisé notre mémoire vers Wikipédia, vers le cloud, nos smartphones.
On a sous-traité, oui.
Voilà. Alors que le cerveau antique, lui, devait être le disque dur. En fait, la capacité de mémorisation devait être inversement proportionnelle au taux d'alphabétisation. Si on ne peut pas l'écrire, bah, il faut l'imprimer dans ses neurones.
C'est exactement ça. Et l'éducation entière était structurée autour de cette nécessité. Dans le monde gréco-romain, l'une des 5 tâches fondamentales de la rhétorique classique, c'était la memoria.
La mémoire pure et dure ?
Oui. Un orateur devait pouvoir restituer des discours techniques de plusieurs heures sans la moindre note. Et même hors de l'élite, les bardes itinérants, qui étaient souvent analphabètes, ils récitaient l'intégralité de l'Iliade et de l'Odyssée de mémoire.
L'Iliade entière, c'est vertigineux.
On parle d'une maîtrise de milliers d'hexamètres dactyliques retenus grâce à des formules rythmiques très complexes.
Mais je sais qu'il y avait des méthodes d'entraînement encore plus intenses, presque extrêmes. Les disciples de Pythagore, par exemple.
Ah oui, les pythagoriciens, c'est un excellent exemple. Les écoles philosophiques utilisaient la mémoire comme outil de formatage de la pensée. Ils s'imposaient une routine matinale qui ferait fuir n'importe quel étudiant d'aujourd'hui.
Genre réveil à 5h du matin avec des flashcards.
Pire que ça. Les disciples avaient l'interdiction formelle de sortir de leur lit le matin avant d'avoir récité mentalement, et sans aucune erreur, l'intégralité des leçons entendues la veille.
Tant que t'as pas récité, tu te lèves pas. Dur.
L'objectif, c'était pas de passer un examen, mais d'absorber vraiment l'essence du maître. Et on retrouve ça dans la tradition juive de l'époque aussi. Cette dynamique maître-disciple poussait à mémoriser non seulement les paroles, mais aussi les gestes du quotidien.
Ah oui, l'histoire du jeune étudiant sous le lit.
Exactement. Une histoire rabbinique raconte qu'un jeune étudiant s'était glissé sous le lit de son maître pour observer son comportement dans l'intimité.
Ce qui est un peu effrayant aujourd'hui, on va pas se mentir.
C'est clair. Mais une fois découvert, il s'est justifié en affirmant que la Torah résidait aussi dans les actions privées du maître et qu'il se devait de les retenir. L'idéal intellectuel de l'époque, il était décrit par une expression très parlante, une citerne plâtrée qui ne perd pas une seule goutte d'eau.
Une étanchéité parfaite de l'esprit, quoi. Ça me rappelle le cas de Sénèque l'Ancien. C'est le genre de performance qui ressemble presque à un tour de magie cognitif.
Ah, Sénèque l'Ancien. Il a documenté ses propres capacités et elles défient complètement l'entendement moderne. Il pouvait écouter une liste de 2000 noms prononcés une seule fois.
2000 noms?
Juste en les entendant une fois.
Oui, et il les répétait dans l'ordre exact.
Il était aussi capable d'entendre 200 vers de poésie inédite et de les réciter immédiatement à l'envers, du dernier au premier.
C'est juste absurde. Moi, j'ai parfois du mal à me souvenir de mon mot de passe quand je change d'appareil.
Et le plus ironique, c'est qu'il mentionne ses exploits dans des écrits où il se plaint amèrement que sa mémoire décline avec la vieillesse.
Quel drame. Mais dis-moi, si on applique ce niveau de rigueur aux disciples de Jésus au 1er siècle, la plupart d'entre eux étaient très jeunes, non ?
Oui, probablement au milieu de l'adolescence lorsqu'ils ont commencé à le suivre.
Mais comment des ados pouvaient-ils avoir cette discipline martiale de la mémoire ? On imagine mal des jeunes de 15 ans faire ça.
En fait, le milieu de l'adolescence correspondait précisément au début de l'éducation avancée à l'époque, que ce soit pour la rhétorique grecque ou l'étude de la Torah.
Ah, donc c'était le moment idéal !
Voilà. Les pédagogues antiques considéraient que c'était l'âge où la plasticité cérébrale était optimale pour le formatage mnémotechnique. La responsabilité première d'un disciple n'était pas d'innover, mais de retenir et de transmettre avec exactitude. Inventer des paroles pour les attribuer rétroactivement à son maître, c'était la transgression ultime.
Un disque dur humain surpuissant, donc. Mais bon, même un disque dur peut subir une corruption de données. L'oralité pure, ça me semble quand même un pari risqué sur plusieurs décennies. Est-ce qu'on s'interdisait totalement la prise de notes physiques ?
C'est une super question. La culture dominante était orale, c'est vrai, mais la prise de notes existait bel et bien et servait de filet de sécurité.
Donc ils écrivaient quand même ?
Bien sûr. Quintilien, le grand professeur de rhétorique de Rome, a même été victime du zèle de ses propres étudiants.
Victime ? Comment ça ?
Ses étudiants prenaient des notes tellement minutieuses en utilisant des systèmes de sténographie sur des tablettes de cire qu'ils ont compilé et publié ses cours sous son nom, sans son autorisation.
Le premier cas documenté de piratage intellectuel, en fait.
Par des étudiants trop attentifs.
C'est ça. Quintilien a dû publier une édition officielle en ironisant sur le fait que ses élèves auraient au moins pu lui laisser corriger ses propres erreurs de syntaxe avant de le publier.
Magique. Et dans le cercle très proche de Jésus, il y avait Matthieu, qu'on appelle aussi Lévi, le collecteur d'impôts.
Exactement.
Son métier exigeait de manipuler des registres, de la comptabilité, de tenir des archives écrites pour l'administration romaine. Il maîtrisait techniquement la prise de notes rapide, non ? La présence de compétences bureaucratiques au sein du groupe initial, ça change complètement la donne. Mais l'indice le plus fascinant de cette préservation minutieuse n'est pas matériel, il est linguistique.
Linguistique, c'est-à-dire ?
C'est ce qu'on appelle le rythme araméen. Jésus enseignait principalement en araméen, la langue de la Galilée rurale. Ses enseignements nous sont parvenus traduits en grec.
D'accord.
Or, au lieu de lisser ces textes pour en faire de la belle littérature hellénistique, les rédacteurs ont conservé une syntaxe qui gratte un peu l'oreille en grec.
Comment ça, une syntaxe qui gratte ? Comment on repère ça 2000 ans plus tard ?
Eh bien, la langue grecque adore les phrases complexes, tu sais, les belles subordonnées élégantes. L'araméen, en revanche, ça empile les propositions de manière très directe, très répétitive.
Ok, ça sonne plus brut.
Voilà. Quand on lit certains passages des évangiles ou des actes, la traduction grecque conserve des expressions brutes, des sémitismes. L'exemple classique, c'est l'expression « fils de l'homme ». En araméen, « bar anish », c'est une tournure très fluide.
Mais en grec ?
Traduit littéralement en grec, c'est lourd, c'est presque grammaticalement absurde pour un lecteur d'Athènes de l'époque. En refusant de corriger cette lourdeur, Luc et les autres auteurs prouvent qu'ils sanctuarisaient la formulation originelle, et ça au détriment du style.
L'auteur des Actes des Apôtres n'est donc pas juste un compilateur lointain qui essaie de faire de belles phrases. C'est là que ça devient vraiment intéressant. À partir du chapitre 16, la narration bascule soudainement, non hein ?
Tout à fait. L'auteur arrête de dire « il » et commence à utiliser « nous ». Il s'inclut dans l'action.
C'est ce fameux « nous ». Ça change tout.
Ce « nous » marque le passage d'un travail de compilation à un témoignage direct. Luc accompagne l'apôtre Paul. Lors de l'emprisonnement de Paul sous le gouverneur romain Félix, Luc passe jusqu'à 2 ans stationné en Judée et à Césarée.
C'est la configuration classique du journaliste d'investigation embarqué, en fait. Comme un correspondant de guerre. 2 années entières à patienter pendant que Paul est incarcéré.
Ouais, un temps précieux.
Ça lui donne un accès direct aux quartiers généraux et un temps infini pour retrouver et interviewer les témoins oculaires de la première heure. Il a pu croiser Philippe, Jacques, le leader de Jérusalem, et débriefer Paul sur ses voyages.
Et le contexte s'y prêtait bien. Le gouverneur Félix espérait un peu de vin et autorisait curieusement Paul à recevoir de l'aide et des visites régulières. Luc a bénéficié d'une fenêtre inespérée pour recouper la tradition orale, consulter les notes et figer son enquête.
D'accord. L'image du journaliste embarqué, c'est beau. Mais un récit ne devient historique que s'il résiste à la confrontation avec le monde réel.
C'est l'épreuve du feu.
Voilà. Si Luc invente une partie de son récit des décennies plus tard, il va forcément trébucher sur la géographie complexe et la politique hyper fragmentée de l'Empire romain. Que disent les historiens laïcs de l'exactitude de Luc sur ces points ?
Les historiens constatent qu'aucune œuvre de fiction de l'époque ne présente ce niveau de granularité et d'exactitude. Pour un auteur qui rédigerait de loin sans avoir voyagé, le champ de mine administratif romain, il était impossible à traverser sans erreur.
Parce que ça changeait tout le temps, c'est ça ?
Chaque province, chaque ville avait ses propres statuts changeants.
Si j'invente une histoire aujourd'hui qui se passe à Éphèse, au 1er siècle, je pourrais bêtement appeler le dirigeant de la ville le maire ou le préfet. Qu'est-ce que Luc utilise, lui ?
Luc utilise les titres exacts de la microbureaucratie locale. À Thessalonique, il désigne les magistrats par le terme très spécifique de polytarque.
Polytarque, ok.
À Éphèse, il parle de grammétéus, le secrétaire de la ville. Toujours à Éphèse, il retranscrit une bizarrerie linguistique locale liée au culte de la déesse Artémis. Il utilise un article féminin accolé au mot « dieu », littéralement « la dieu ».
Ah ouais, ce genre de jargon institutionnel local, c'était introuvable dans les bibliothèques lointaines. Il fallait y avoir mis les pieds.
Absolument.
Mais il faut aussi qu'il place les bonnes personnes au pouvoir au bon moment. La politique romaine de l'époque, c'est pire que Game of Thrones. Les gouverneurs, les alliances, ça change constamment.
Et pourtant, la chronologie de Luc est redoutable. Il mentionne par exemple que le gouverneur Félix était marié à une certaine Drusilla pendant son mandat.
Et c'est vérifiable ?
Oui, les archives romaines indépendantes confirment que Drusilla, qui est une princesse juive, sœur d'Agrippa II, est bien devenue l'épouse de Félix à ce moment très précis de l'histoire.
Impressionnant.
Il mentionne aussi le commandant romain Claude Lysias, qui avoue dans le texte avoir acheté sa citoyenneté romaine à un prix exorbitant.
Et ça colle avec l'histoire officielle ?
Complètement. La grande histoire confirme que sous le règne de l'empereur Claude, la citoyenneté était effectivement manayée à prix d'or pour renflouer les caisses. Et les nouveaux citoyens prenaient le nom de l'empereur, d'où Claude Lysias.
C'est d'une précision chirurgicale. Mais il y a un détail qui me fascine encore plus. C'est le fameux naufrage du chapitre 27. On pourrait se dire, la tempête, c'est un artifice littéraire classique, une belle métaphore, quoi.
Beaucoup l'ont pensé.
Sauf que les données maritimes de ce chapitre ont été passées au crible au 19e siècle.
Oui, des navigateurs expérimentés ont retracé l'itinéraire décrit par Luc. Luc mentionne un vent catabatique très spécifique, appelé Euroclidon. Il décrit les manœuvres de l'équipage pour éviter des bancs de sable bien précis au large de l'Afrique.
Et les indications de profondeur aussi, non ?
Exactement, il donne des indications de profondeur de l'eau en approchant de l'île de Malte au milieu de la nuit.
Et quand on vérifie la bathymétrie, donc la profondeur réelle des fonds marins à cet endroit exact, avec la vitesse de dérive d'un navire antique frappé par ce vent spécifique.
Les calculs des marins arrivent exactement aux 14 jours de dérive mentionnés par Luc dans le texte.
C'est le genre de détail technique qu'on ne peut absolument pas deviner depuis un bureau bien au chaud à Rome.
Si on relie cela à une perspective plus large, la somme de ces correspondances externes a forcé le respect d'érudits très critiques. Adolf von Harnack, par exemple.
Le savant allemand.
Oui, un immense savant du début du XXe siècle. Au départ, il cherchait à démontrer que le livre des Actes était une compilation tardive et mythologique. Mais il a dû capituler face à l'évidence géographique et historique.
Il a changé d'avis.
Totalement. Harnack a fini par recenser 39 points de corroboration indépendante où des détails fortuits glissés dans les lettres de l'apôtre Paul confirment silencieusement les récits de Luc.
39 détails.
Oui, comme l'évasion de Damas dans un panier ou l'identité de certains leaders locaux.
Puisque vous parlez de l'apôtre Paul, il faut que je me fasse l'avocat du diable une seconde.
Allez-y.
Le critique allemand Fielauer a soulevé un problème majeur de cohérence. Si Luc connaissait si bien Paul, pourquoi le Paul décrit dans les Actes semble-t-il parfois en totale contradiction avec le Paul qui écrit les Épîtres ?
Ah, la fameuse question de la loi.
Voilà. Dans ses propres lettres, Paul prend vraiment ses distances avec la loi juive. Mais dans le récit de Luc, on voit un Paul qui fait des vœux au temple, qui respecte scrupuleusement les coutumes. C'est quand même une faille dans la fiabilité du journaliste, non?
C'est l'argument classique de l'incohérence théologique. Mais en fait, Paul lui-même donnait la clé de cette énigme comportementale dans ses propres écrits. Il y revendique une stratégie missionnaire d'hyper-adaptabilité.
Il s'adapte à son public.
Exactement. Il se fait, je cite, « tout à tous, grec avec les grecs pour convaincre les grecs et juif avec les juifs pour ne pas braquer sa communauté d'origine ». Le comportement de Paul dans les actes n'est donc pas une erreur de Luc, c'est l'application pratique de la théorie de Paul.
Ok, il adapte son comportement à son audience pour éviter les scandales inutiles. C'est très pragmatique.
Prenez l'exemple des 39 coups de fouet. Paul a subi ce châtiment synagogal brutal à plusieurs reprises. Pourtant, il possédait la citoyenneté romaine.
Et alors, ça changeait quoi?
Il lui suffisait de prononcer deux mots « civis romanus sum » pour que le châtiment soit illégal et s'arrête immédiatement.
Attends, il aurait pu arrêter la torture juste en disant ça?
Oui, mais s'il a enduré ça, c'est par choix stratégique. Utiliser sa citoyenneté romaine l'aurait définitivement excommunié des synagogues où il cherchait justement à prêcher. L'image d'un Paul observant la loi juive dans les actes, c'est donc d'un réalisme sociologique implacable.
D'accord. Donc, l'enquête de terrain est validée par l'administration, les vents dominants et la sociologie. Mais il y a un dernier mur à franchir.
Lequel ?
Les discours. Le livre des actes est rempli de longs discours cités entre guillemets. La critique moderne a tendance à dire que les historiens antiques inventaient ces discours de toutes pièces pour faire joli dans le récit.
Cela soulève une question importante sur les règles du jeu de l'historiographie antique. Il faut comprendre la technique de la prosopopée.
La prosopopée.
Oui, puisque l'enregistrement sténographique parfait était impossible, les historiens considéraient comme légitime de reconstruire l'essence de ce qui avait été dit, en respectant le caractère de l'orateur et la situation historique. C'était la règle établie par l'historien grec Thucydide.
Mais reconstruire l'essence, ça laisse un peu la porte ouverte à tous les abus, non ?
Exactement. Et certains historiens franchissaient carrément la ligne pour faire le show. L'historien juif Flavius Joseph, par exemple.
Qu'est-ce qu'il a fait, lui ?
Lorsqu'il raconte la chute tragique de la forteresse de Massada, il place dans la bouche du commandant rebelle Éléazar un discours majestueux, bourré de philosophie platonicienne sur l'immortalité de l'âme, juste avant le suicide collectif.
Très cinématographique, mais comment il a eu ce discours ?
C'est ça le problème. Les seules survivantes du siège étaient deux femmes qui s'étaient cachées dans une citerne souterraine. Il est rigoureusement impossible que ces femmes terrorisées aient mémorisé un traité de philosophie grecque pour le répéter à Joseph des années plus tard.
Donc Joseph a inventé.
Ici, Joseph invente de toutes pièces pour étaler sa propre maîtrise rhétorique.
Il fait un peu le scénariste hollywoodien, quoi. Mais du coup, est-ce que la méthode de Luc tombe dans ce même travers théâtral ?
Non. L'analyse structurelle des actes montre que la méthode de Luc est fondamentalement différente. Il ne produit pas d'envolées rhétoriques artificielles, il rédige des condensés très serrés.
Des résumés, en gros.
Oui. Le grand discours fondateur de l'apôtre Pierre au chapitre 2, par exemple, se lit à voix haute en moins de 3 minutes.
3 minutes ? C'est court pour convertir 3000 personnes, comme le dit le texte.
C'est structurellement impossible. Et Luc ne s'en cache absolument pas. Il ajoute lui-même une clause éditoriale dans le texte et par beaucoup d'autres paroles, il rend des témoignages. Il annonce clairement au lecteur qu'il lui fournit un résumé exécutif.
C'est un peu comme les procès-verbaux d'un conseil d'administration. Personne ne veut lire un verbatim de 3 heures avec les toux, les hésitations et les blagues ratées.
Exactement.
Le rédacteur du compte-rendu, il extrait l'ADN de l'argumentaire. Les décisions clés, les objections, ça donne un document juridiquement fiable sans être une transcription paranoïaque mot pour mot.
C'est une excellente analogie. D'ailleurs, quand on analyse le chapitre 20 des actes, les mots grecs utilisés dans le discours correspondent de manière frappante au vocabulaire spécifique des épîtres de Paul.
Ah oui, c'est logique. Exploration d'aujourd'hui, on a quand même navigué de la prouesse mnémotechnique presque effrayante des pythagoriciens jusqu'à la minutie des titres administratifs romains.
C'est un sacré voyage.
Oui, en passant par la vérification des vents de la Méditerranée et l'art subtil du procès-verbal antique. Cette enquête démontre que les auteurs de cette époque, et Luc en particulier, ne fonctionnaient pas comme des romanciers désinvoltes qui joueraient au téléphone arabe.
Non, pas du tout.
L'historiographie était une discipline de fer. Il s'appuyait sur des témoins oculaires coriaces, des réseaux d'informations fiables et une capacité de rétention que, honnêtement, nous avons totalement perdue.
Dans notre écosystème informationnel actuel, où une nouvelle devient obsolète en quelques heures sur les réseaux sociaux et où notre attention est fragmentée à l'extrême, Comprendre ce sérieux force le respect.
Complètement.
L'acharnement avec lequel ces cultures préservaient leurs données fondamentales, c'est admirable. Leur rapport à la vérité et à la transmission, c'était une responsabilité vitale envers la génération suivante. Une responsabilité structurée par des méthodes qui avaient largement fait leurs preuves.
L'Antiquité avait ses propres disques durs, inattaquables par l'usure du temps. Et ça nous amène à une réflexion un peu troublante. Imaginons ce qui se passerait si, demain matin, un orage magnétique massif détruisait l'intégralité de nos serveurs, de nos clouds et de nos disques durs.
L'écran noir total à l'échelle planétaire, quoi.
C'est ça. On pourrait légitimement se demander s'il y a, ne serait-ce qu'une seule information vitale de notre culture moderne, une seule découverte cruciale que l'on serait capable de transmettre avec une fidélité absolue, uniquement grâce à notre mémoire humaine, pendant 4 décennies et demie.
Juste le temps que la prochaine génération puisse enfin réinventer le papier et l'écrire.
Exactement. Soudainement, le risque d'amnésie de 45 ans dont on parlait au tout début, il ne semble plus être le fardeau des anciens. C'est bel et bien notre propre fragilité.